l'été, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous, on leur avait promis l'enfer, des défaites humiliantes et une redescente immédiate, prédiction qui aurait pu ruiner le moral des Bayonnais. Les Alavirons, on n'est pas fait de ce même bois que les autres. Et au contraire, ce genre de challenge a eu le don de motiver comme jamais les avants et les trois quarts bayonnais. Et leur nouveau manager, Grégory Pata, qui sera avec nous dans un instant pour nous expliquer les recettes de son succès. Pata, le Gersois, quasi inconnu du grand public en début de saison, qui a montré une nouvelle fois qu'à Auch, on savait former des entraîneurs. Fourou, Broncan ou encore Brunel ont sans doute trouvé dans le manager bayonnais un digne successeur. Car oui, on peut parler d'un succès pour le club basque promu dans l'élite en fin de saison dernière et qui depuis étonne et détonne les bayonnais actuels 7e au classement. Ce succès va-t-il ouvrir d'autres perspectives et pourquoi pas une qualification pour les phases finales? On posera la question à Grégory dans un instant. Et pour passer le manager de l'Aviron sur le grill, j'ai convoqué aujourd'hui des poteaux de qualité. A commencer par un demi-chardet de retour d'une tournée triomphale à l'Alpe d'Huez.
Oui.
Comment ça va, mon Denis? Est-ce que tu es remis de tes agapes hivernales?
C'est une année,
de transition.
Calme, calme spirituel.
De calme, oui. Ça, oui.
Une retraite spirituelle, tu vois.
Oui.
Bah, c'est surtout un premier soir à Moscato, c'est un peu dur, c'est un peu agité. Mais après, ça s'est calmé. Non, c'était sympa.
À ses côtés, un garçon beaucoup plus sérieux, lui, les troisièmes mi-temps. Ça fait longtemps qu'il a abandonné ça. Il est le patron de Midi Olympique. Manu Massicard est avec nous. Salut Manu.
Salut les amis.
Méfie-toi.
Alors, les troisièmes mi-temps, il aime bien les
tu mets du rouge sur la table, tu sais, il n'est pas le dernier.
Surtout quand c'est toi qui raques.
C'est mieux. C'est mieux.
Et puis, les hommes de base du 15 des poteaux, Wilfried Templier. Commentateur vedette, commentateur du 15 de France,
par RMC,
qui sera dans quelques mois le héros d'RMC.
International, parce qu'il voyage.
Champion du monde.
En plus, il voyage. Il a fait un petit voyage à Manchester.
Il voyage dans les grands hôtels, les 5 étoiles, les palaces.
Et vous êtes en forme, hein? J'ai dit vous chauffer avant l'émission, c'est pas possible. Salut à toutes et à tous.
Et puis notre régional de l'étape, et oui, il est là aussi de temps en temps, il vient faire un petit coucou dans les poteaux, il vient travailler de temps en temps, ça lui arrive. Notre ami Paul Lafitte, salut
quand
Polo.
Quand il est invité, salut messieurs.
Bonjour. Oui, salut tous. Paul.
Tu vois de la lumière, tu entres, tu sais, nous
c'est
on est comme
c'est chez toi ici, Paul.
C'est une grande maison.
Tu as envie de venir, tu viens.
Enlève tes chaussures quand même.
Intraitable, je dirais même injouable. L'Aviron est tout simplement le seul club à avoir remporté ses 7 matchs à domicile cette saison. Mieux que Toulouse, mieux que le Stade Français, encore l'UBB. Jean Daugé est une véritable forteresse.
Bayonne qui a les deux pieds en top 14, c'est bon, on peut le dire. Bayonne retrouvera le top 14 un an après l'avoir quitté.
C'est une sensation de voir le promu champion de France de Pro D2 battre Racing. Le Racing 92 qui terminé avec la victoire de l'Aviron bayonnais 26 à 22 face au Stade Toulousain.
Laissez bayonner, magnifique essai bayonnais après seulement 3 petites minutes de jouer en deuxième mi-temps.
Le score, messieurs, dames, vous ne rêvez pas. 18 à 7 en faveur de l'Aviron face à l'UBB.
C'est la sensation du jour, évidemment. Le champion de France de Pro D2 est en train de terrasser. C'est, n'ayons pas peur des mots, le champion d'Europe en titre
et le gros déboulé des avants de l'Aviron bayonnais qui vont peut-être aller à Dame et qui se couche par Guillaume Rouette, le stade qui est debout, messieurs dames. On le sentait venir à 15 contre 14 avec la rage de Camille Lopez, lui l'ancien Clermontois.
Toute la France du rugby la connaît. Et les Toulonnais, les Lyonnais, les Perpignanais, mais encore le Stade Rochelais, l'UBB, le Racing et même le mythique Stade Toulousain, tous ces grands noms du rugby français ont une chose en commun, celle d'avoir tous été battus à Jean Daugé cette saison. C'est tout simplement incroyable pour un promu. Un promu dirigé donc depuis le début de la saison par un garçon que le grand public ne connaissait pas forcément. Oui, mais en quelques mois, on a appris à retenir son nom, Grégory Pata. Le manager de l'Aviron est avec nous. Bonjour Grégory et merci d'être avec nous. C'est un grand honneur que tu nous fais.
Merci. Bonjour tout le monde.
Salut,
et ravi d'être parmi vous ce soir.
Voilà. Je le disais il y a un instant, Grégory, tu n'étais pas un inconnu, mais pas non plus une vedette du rugby français lorsque Philippe Taïeb t'a nommé en novembre 2021 pour succéder quelques mois plus tard à Yannick Bru. Certains, le président bayonnais, il faisait allusion il y a quelques jours, il y a quelques semaines, il se demandait même si... on n'avait pas un peu perdu la tête du côté de l'Aviron avec cette nomination. J'imagine que ce genre de choses, ça motive comme jamais le Gersois que tu es, non?
Oui, ça motive, mais c'est pas mon but premier. Voilà, je suis venu pour un projet à l'Aviron et je remercie énormément Philippe Taïeb de m'avoir fait confiance. J'ai quand même 13 ans d'expérience au niveau professionnel, donc je suis un Gersois, j'aime la tranquillité, la simplicité, et c'est vrai que je ne suis pas un abonné des médias, mais je suis un compétiteur qui a envie de relever de grands défis, tout simplement.
Justement, Grégory, quand tu démarres ce métier, qui est un métier de fou, dans ta tête, tu vas finir numéro un dans un club, tu vas t'imposer. C'est quand tu dis que les compétiteurs, c'était l'objectif à atteindre.
Alors franchement, Denis, je m'étais pas mis de projet de carrière quand je me suis lancé dans ce métier-là. Je l'ai démontré après un échec à Perpignan. J'ai pas hésité de rejoindre le projet Rochelet en repartant des jeunes. Non, c'est la passion de ce sport qui m'anime. Voilà, cette volonté de gérer des hommes, de gagner des matchs, et de rester dans ce milieu. Mais c'est vrai que j'ai eu cette expérience rochelaise qui m'a permis de grandir, d'acquérir beaucoup d'expérience. Et c'est vrai que quand on est sollicité en tant que manager dans un club comme Bayonne, eh bien on se dit pourquoi pas. Et on est un compétiteur, je suis un compétiteur, j'ai envie de relever des défis. C'est pour ça que j'ai tenté cette expérience.
Manu, toi le patron de Middle, qui suit évidemment toutes les équipes de Top 14 de Pro D2, même fédéral, est-ce que tu croyais en Grégory Patta, tu lui voyais un bel avenir en tant qu'entraîneur, parce qu'effectivement il y a eu les expériences à Auch, à Perpignan, à La Rochelle, et là devenir manager, est-ce que toi tu faisais partie de ceux qui croyaient en ce garçon?
Je crois pas, non Manu, hein, t'as dit que tu croyais pas au début, c'est ça?
Non. Voilà, vous les avez tout raconté. Non, pas du tout, on n'y croyait pas, personne ne le connaissait, il n'avait pas de résultats, il n'avait pas participé à l'exposition et à la réussite rochelaise. Non, blague à part, Grégory, c'est quelqu'un que le rugby français, les amateurs, enfin les connaisseurs du rugby français, ceux qui suivent le Top 14 connaissent depuis des années. Il n'est pas étranger à la bonne marche du Stade Rochelet ces dernières années et tout le projet de formation qu'il avait accompagné là-bas. Après, c'est pas faire injure à personne que de dire que c'est une bonne surprise de retrouver l'aviron de Grégory à ce niveau de performance, tu l'as dit tout à l'heure, depuis le début de saison, tant en termes de résultats que de rugby produit et de performance, tout simplement. On n'est pas surpris, pas forcément surpris, on connaissait les qualités de Grégory, ce qu'il avait mis en place à La Rochelle, on y vient, ce qu'il avait mis en place avant. Il y a des marqueurs hein, tout au long du parcours qui sont toujours les mêmes. Et finalement, tu te dis, c'est une belle réussite.
Mais Manu, effectivement, ce que tu arrives à mettre en place, Grégory, à Bayonne, ce que tu avais réussi à faire à La Rochelle, plus ou moins, c'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que toi, tu arrives c'est pas inconnu, mais bon, tu as tout à prouver. Et de mettre en place un système de jeu comme le vôtre, c'est exceptionnel. Et là, je tiens à vous féliciter, parce qu'on peut être qu'admiratif. C'est jamais évident quand tu reprends un club où il n'y a pas quand même de grandes stars, où il y a tout à créer, à fonder. Voilà, donc
et surtout, Denis, quand tu remontes de Pro D2 avec des codes qui ne sont pas les mêmes, ça, Greg va nous en parler. Mais c'est sans doute là où la plus belle des réussites, c'est que avec une équipe de Pro D2, un projet au départ taillé pour la Pro D2, il se retrouve à rivaliser avec ce Top 14 qui va beaucoup plus vite.
Juste avant qu'il réponde, on précise que Bayonne est 7e avec 35 points, à 3 points de Montpellier qui est 6e et avec 10 points d'avance donc sur la place de Barragiste de 13e qui est occupée par Brive.
Alors Wilfried, parle-nous un petit peu justement, et Grégory va pouvoir nous en parler derrière, mais lui qui connaît évidemment particulièrement bien le Gers, c'est vraiment une terre de rugby, Wilfried, toi qui viens de La Rochelle, c'est pas tout à fait le même rugby qu'on pratique là-bas. Hein.
Bah c'est pas ça, c'est que vous tapez dans une poubelle dans le coin, il y a un rugbyman qui tombe. C'est, j'ai l'habitude de dire dans le Gers, il y en a partout, il y en a dans toutes les équipes de Top 14. Et c'est Grégory, tu en croises tout le temps, et c'est quand même une fierté. C'est voilà, vous êtes l'étendard, les rugbymen qui viennent du Gers, c'est quand même l'étendard un peu de ce département.
Ouais, c'est une fierté, bien évidemment. On a des icônes de notre sport aujourd'hui qui sont reconnues. Il faut féliciter toute la formation gersoise, ouais, tous les éducateurs des clubs gersois. Il y a un énorme travail qui est fait. Vous savez, on est un territoire pas très riche où le travail est beaucoup mis à l'honneur. Et c'est vrai que et le rugby, c'est un rassemblement de chacun. Et donc, c'est vrai qu'on a ce terrain d'expression, on a ce moyen de se faire connaître. Et c'est vrai que aujourd'hui, notre rugby français est bien représenté. Et en préambule, vous avez parlé d'entraîneur, de sélectionneur, Jacques Fouroux,
oui, Jacques
Brunel,
je
les Broncans, ouais. Jacques, Denis, tu le connais,
oui,
c'est
un maître,
c'est une rencontre incroyable. Ouais.
Raconte-nous justement, Grégory, comment tu as travaillé avec Jacques Fouroux, quand tu étais en place déjà à Auch, il est devenu président du club. C'était un président un peu spécial, je crois qu'il mettait la voiture à côté du terrain pour allumer les phares et pour éclairer le terrain.
J'ai vécu en équipe de France, je peux te le raconter. Oui, en Australie.
Ça a changé depuis.
Il me l'a fait. Non, mais il me l'a fait. Au car, avec le car. Il était sur un stade où il n'y a pas de lumière. Il a appelé le car et il dit maintenant on va s'entraîner. Non, c'est un mec. Tu peux aussi bien en parler que moi, Greg.
Non, mais c'était un passionné. On écoutait et on buvait chaque parole de Jacques. C'est vrai que quand on voyait la Mercedes arriver, déjà qu'à notre époque, les entraînements duraient une heure et demie. Eh bien, on savait qu'on était reparti pour une heure d'entraînement supplémentaire, et notamment autour du joug pour les avants. Voilà, mais il y avait une telle passion que
tu t'en es inspiré. Est-ce que tu t'en es inspiré, Grégory, de Jacques Fouroux? On sait que Bernard Laporte s'en est beaucoup inspiré puisqu'il allait voir ses entraînements à Grenoble et derrière il était junior à Gaillac, il travaillait, je ne veux pas me tromper, à l'EDF à Grenoble. Il a passé des heures à l'écouter, à le regarder. Et il s'en est beaucoup inspiré. Est-ce que toi aussi, tu t'es inspiré de lui?
Déjà, Jacques avait un niveau d'exigence pour l'époque. C'était un précurseur du rugby professionnel. Voilà, ouais. C'était un visionnaire. Donc aujourd'hui, oui, il m'a transmis tout le niveau d'exigence qu'il faut pour ce rugby professionnel. Et sa connaissance du jeu et sa passion, c'est surtout ça qui m'a marqué chez lui. Aujourd'hui, on fait des métiers qui sont compliqués, on est jugé au résultat, il y a beaucoup d'instabilité, et s'il n'y a pas une passion accrue pour là-dedans, il faut en sortir, il faut pas faire ce métier.
C'est lequel qui t'a le plus inspiré, Grégory, des entraîneurs, des grands entraîneurs gersois que tu as rencontrés au fil de ta carrière? Fouroux, Broncan, Brunel, voilà, que des grands noms et tous originaires du même département.
C'est difficile d'en sortir, hein, franchement, mais chacun avait sa personnalité et ses qualités. Mais bon, voilà, nous les Gersois, vous connaissez notre rapport au téléphone, on ne s'appelle pas tous les jours, mais... Chaque fois qu'on se recroise, on peut rester des heures. C'est la même chose avec Jacques Brunel, avec Henri Broncan. Chacun a eu sa personnalité et cet amour pour ce jeu. Et quand on était simplement un joueur, eh bien, on les écoutait et ils voulaient. Et j'avais envie de découvrir l'autre côté, voilà, parce que c'était des entraîneurs qui échangeaient beaucoup, avec beaucoup de passion, je le répète, mais qui écoutaient le ressenti des joueurs et ils étaient là pour performer et pour juste montrer un visage de Auch à toute la France, voilà, parce qu'on était le dernier village gaulois, si vous connaissez bien le Gers et Auch. On s'est battu avec nos armes et on s'est bien battu, je pense. Voilà, donc les qualités de résilience des Gersois, l'amour pour ce jeu, la relation au travail, on a été à la bonne école.
Il y a une vraie identité, c'est vrai, un peu que maintenant tu es au Pays Basque.
Au Pays Basque, il y a pas mal d'acquaintances finalement entre
ces
deux terres, non, Grégory?
Mais complètement. Enfin, déjà quand Philippe Taillem m'a sollicité pour projet Bayonnais, déjà quand on est de l'extérieur, on a envie de découvrir ce club de l'intérieur. On a envie de savoir ce qui se passe dans l'environnement Jean Dauger. Et aussi, je savais que c'était un environnement qui allait ressembler beaucoup avec mes origines. Donc, c'est pour ça que j'ai foncé dans ce projet.
Alors, il paraît que lorsque tu es joué sous les ordres d'Henri Broncan, qui a fait de toi son capitaine,
Il paraît que tu aimais bien désobéir à ses ordres et emmener toute l'équipe en bringue le soir, malgré les ordres du coach. Est-ce que c'est vrai déjà cette histoire? Est-ce que ça se reproduit à Bayonne aujourd'hui? Est-ce que si ton capitaine décide d'emmener les autres faire la bringue le soir, tu es d'accord?
Mais pour exister, comme je disais, on était obligé d'être des rebelles, donc à ce niveau. Donc, mais l'histoire qu'a raconté Henri est vraie. Donc, je pense que vous connaissez tous les Pentecôtes à Vic, les fêtes, les férias de Vic faisant un sac. Donc, c'était quand même un événement que, en tant que joueur, on ne voulait pas manquer. Et c'est vrai que Henri nous avait menacé de pas jouer la petite finale de Coupe d'Europe la semaine d'après, s'il voyait un joueur. Donc, tous les joueurs sont présentés aux arènes, dans un endroit bien visible. Et le mot d'ordre, c'était de rester 15 minutes. Donc, tout le monde pouvait faire ce qu'il avait envie après. Aujourd'hui,
est-ce que voilà, je sais pas, Paul, raconte-nous, est-ce que Grégory surveille ses ouailles pendant les fêtes de Bayonne, par exemple? Est-ce que tu l'assures? Parce que toi, tu passes quand même 4 jours complets là-bas,
toi, tu vois
un peu ce qui se passe quand même, Paul.
Ouais, c'est ça. Non, alors traditionnellement, les joueurs de l'Aviron bayonnais, le club, le manager, les joueurs, les entraîneurs sont en stage et s'éloignent évidemment du Pays basque hein, pendant ces 5 jours de fête pour éviter toute tentation. Mais c'est vrai que Grégory aujourd'hui, pour le côtoyer depuis le début de la saison, est un vrai capital sympathie, au contraire de certains de ses prédécesseurs. Hein, je ne citerai pas de nom à l'antenne.
Ah là là, tu en as trop dit ou pas assez là.
Non, mais capital sympathie envers son groupe évidemment, envers les supporters hein, qui baignent dans un bonheur immense depuis le début de la saison, mais également envers la presse. Hein. On peut le voir lors des conférences de presse d'après-match, après les matchs. Alors évidemment, ça gagne depuis le début de la saison à Bayonne. Donc c'est une vraie aubaine hein, pour Grégory Patin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce club est en train de changer de dimension. On avait évoqué, Christophe, dans Entre les poteaux, il y a quelques mois déjà, le projet, hein, l'AB Campus, hein, avec ce centre de formation magnifique hein, qui jouxte le centre de Jean Daugé. Et aujourd'hui, c'est vrai que les joueurs se sentent bien, on évoquait les résultats qui sont aujourd'hui magnifiques. Le tour de force aussi, c'est d'avoir fait venir quand même deux anciens internationaux, hein, Maxime Macheneau et puis Camille Lopez, qui est peut-être aujourd'hui, évidemment avec Romain Tamac, le meilleur 10 du top 14. Donc ces ingrédients-là font que Bayonne aujourd'hui est en progression et ne cesse d'étonner aujourd'hui le monde du rugby.
Et oui, parce que quand on n'a pas beaucoup de sous, il faut avoir des idées, Grégory. D'autant que l'Aviron n'a connu son sort qu'à la toute fin de saison, savoir qu'il allait jouer en top 14. Comment vous avez géré justement cette période-là? Parce qu'il y a 18 joueurs, je crois, qui sont arrivés à Bayonne à l'intersaison. Comment on réussit à recruter 18 joueurs dans le peu de temps qu'il vous est resté entre la fin du championnat et le début de l'autre?
Alors, la chance que j'ai eue, c'est que ma nomination a été annoncée assez tôt. Donc, j'ai pu construire un effectif et mon staff comme je le désirais et anticiper pas mal de choses. Donc, ça, c'est une grosse partie du travail qui est fait en amont. Oui, on parle des joueurs expérimentés comme Camille et comme Max, mais il y a des soldats que je suis allé chercher en Pro D2. Je crois beaucoup aux alignements de projets individuels et par rapport au contexte environnemental du club. Et aussi, quand j'ai commencé la saison, j'ai découvert aussi les anciens. Et les anciens, on n'en parle pas assez, mais c'est eux qui déjà ont répondu aux objectifs du club en faisant monter l'Aviron en top 14. Et j'ai découvert un groupe très sain, très humble, avec un très bon rapport au travail. Et parce qu'aujourd'hui, si l'Aviron ne travaille pas plus que les autres, ne met pas les mains là où d'autres ne les mettraient pas, eh bien ça fonctionnera pas. Donc c'est ce qu'on fait depuis le début de saison. La réalité, quand je suis arrivé à Bayonne, c'est qu'on a fait des vidéos assis par terre dans le vestiaire. On a sans arrêt modifié nos entraînements. Aujourd'hui, il y a une vision avec la construction de l'AB Campus qui amène des exigences du haut niveau. Donc ça donne une fraîcheur aussi à l'ensemble des acteurs. Mais voilà, je vous dis, j'ai la chance d'avoir un groupe très réceptif au travail. Cet alignement et cette complémentarité dans l'effectif fait qu'aujourd'hui on arrive à faire de très belles choses.
J'entends ce que tu dis, Grégory, mais excuse-moi, mais moi je vois vos matchs, je vois beaucoup de talent et de qualité.
Ouais, il y a on a mis des joueurs expérimentés à des postes clés. Il y avait déjà de la qualité dans l'effectif de l'Aviron. Moi, par expérience, je sais que des joueurs qui font 25 matchs en Pro D2 sont de très bons soldats en top 14. Et on a su créer cette alchimie.
Mais où t'as été chercher la cohésion, staff, Grégory? Quelle histoire tu leur racontes cette année pour qu'il y ait ça, comme ça, ce feu que vous avez notamment
joué? La cohésion, je suis allé la chercher dans le rugby. Je les ai fait sortir des fois, trois fois sur le terrain par jour, dans la journée, pour acquérir le système de jeu, le nouveau lexique. Parce que je savais qu'un projet comme ça, il fallait gagner de suite. Voilà, pour qu'il y ait une croyance à un projet, une appartenance à un projet, ça allait passer par
enclencher la bonne dynamique, d'entrée, gagner à la maison. Évidemment. Et c'est ça, parce que on sait que les équipes qui arrivent en top 14 après une, deux, trois défaites, ça commence à douter. Là, du coup, la bonne ambiance et la bonne dynamique s'est installée dès le début.
Ouais, c'est ça. Et puis surtout, j'ai jamais mis de pression de résultat au groupe avec des temps de passage comptables, parce que c'était mettre une pression encore supplémentaire à mon effectif. Comme tu le disais, la pression des adversaires, on allait la voir parce qu'on était l'équipe promue, et pour se qualifier, pour se maintenir dans ce top 14, il faut aller gagner chez le promu. Donc tout ça, j'ai parlé juste d'objectifs d'état d'esprit, de contenu rugby par match, pour qu'on fasse le point, qu'on débriefe et qu'on puisse progresser d'un week-end sur l'autre. Bon, c'est vrai que les résultats ont été plus que positifs et nous permettent d'être dans une dynamique positive, mais s'il y avait eu des contre-performances, eh bien, on se serait appuyé sur ce rugby pour challenger toutes les équipes, parce que depuis le début de la saison, on a une bonne image parce qu'on challenge toutes les équipes. On a fait les impasses, j'ai horreur de parler d'impasses.
Ouais, et puis fait toujours plaisir de voir le petit pas très riche battre les grosses équipes. Ça, c'est très français en plus, donc vous bénéficiez de ce capital sympathique.
Exactement, et puis c'est mon histoire avec Koch aussi. Et
exactement, c'est la suite de l'histoire avec Koch.
C'était ça, et je me suis retrouvé là-dedans. Donc, et voilà, et puis quand on est référencé, estampillé petit, on veut montrer à tout le monde qu'on mérite
si
d'être là.
Donc,
Christophe,
voilà, exactement.
Ouais. Pour que tous les gens qui nous écoutent comprennent bien, pour avoir la chance de suivre quand même le rugby, le top 14, la Coupe d'Europe au Pays Basque depuis le début des années 2000, même lorsque le Biarritz Olympique était champion de France et vice-champion d'Europe, et il n'y a jamais eu une communion comme ce qui est en train de se passer cette année à Jean Daugé, un guichet fermé à chaque match. C'est vraiment extraordinaire. Il y a une vraie communion. Elle était là déjà en Pro D2 lorsque Bayonne ferraillait pour retrouver sa place dans l'élite du rugby français. Mais c'est aujourd'hui quelque chose qui est en train de prendre une ampleur assez phénoménale.
Manu, l'exemple de Bayonne, on a presque l'impression que c'est un contre-exemple. On nous dit toujours que lorsque tu accèdes au top 14, que tu n'as pas les budgets, que tu as la moitié du budget des grandes écuries, tu es quasiment voué à la redescente immédiate. Or, on voit que finalement, on peut y arriver quand on arrive justement à recruter intelligemment et assez tôt dans la saison, même en ne connaissant pas le destin final. Voilà, en étant malin, on peut arriver à s'en sortir finalement.
C'est la preuve que l'histoire est avant tout très importante. C'est ce que nous raconte Greg depuis le début de son histoire gersoise, de son parcours gersois, de ce qu'il avait construit, de ce qu'il a construit en arrivant à l'Aviron. Oui, c'est la preuve que le destin collectif et la vision collective doit être partagée. C'est aussi la preuve que le rugby est extrêmement important. Et parce que ce que nous disait Greg sur les ateliers qu'il a mis en place, parfois les trois séances de rugby par jour, finalement, il n'y a rien d'inéluctable dans ce top 14 qu'on présente souvent comme une très très grosse machine à combattre. On voit que l'Aviron a su relever le défi du jeu et existe par son rugby. Et Greg, j'aimerais bien que tu nous dises si tu es surpris par la réponse de tes joueurs à cette dimension-là, rugbystique, parce que finalement, il n'y a pas que du combat, il y a aussi beaucoup de rugby, et cette capacité à élever son niveau, est-ce que tu es surpris par ces réponses-là ?
Oui, bien sûr, je suis le premier surpris parce que je m'attendais à ce que les résultats arrivent plus tard dans la saison et je pensais que il allait falloir du temps à écrire notre histoire. Les joueurs ont démontré le contraire. Aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'on avait pris en compte la réalité de notre championnat, qu'est-ce qui faisait gagner les équipes, comment. Donc, on a intégré pas mal de paramètres pour performer de suite. Mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont répondu au-delà de mes attentes sur ces débuts de championnat. Et puis, après, quand il y a un alignement avec ce public, quand l'environnement se reconnaît à leur équipe, eh bien, ça fait des grandes choses. Aujourd'hui, je le répète, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas connu ce niveau. Ils veulent montrer qu'ils sont là, qu'ils ont envie d'exister. Et c'est le pourquoi on les a fait venir. Donc oui, j'ai été surpris que les résultats arrivent au-dessus et certains niveaux de certains joueurs, pardon.
Wilfried, cette équipe de Bayonne, et la façon dont elle s'est structurée après son accession, moi, ça me fait penser à l'histoire de La Rochelle.
J'allais le dire parce que on va pas tout ramener à La Rochelle, mais Grégory est passé. Et quand j'entends construction du centre, rénovation du stade, voilà, des nouvelles loges et tout, c'est exactement ce qui s'est passé à La Rochelle. Alors, c'était enclenché déjà quand Grégory tu es arrivé. Faut aussi souligner que tu avais un groupe. Tu parles de ton groupe, qui était sur une dynamique positive après le titre de Pro D2. Il y avait eu du travail avant. Mais ça, est-ce que Bayonne, alors le président Philippe Taïeb était venu dans Entre les poteaux nous dire qu'il y avait un modèle rejeté. Est-ce que Bayonne peut s'inscrire dans la même lignée que La Rochelle sur les 5 prochaines années?
Je l'espère.
Tu l'espères, j'imagine.
Il faut le prendre en exemple parce que j'ai connu le projet Rochelais. Quand ils avaient pérennisé le club déjà depuis 2-3 ans, j'ai vu la vision qu'ils avaient pour ce club avec leur formation, avec leur équipe première, avec leur infrastructure. C'était une vision d'ensemble qui tirait tout le monde vers le haut et surtout, il y avait une forme de stabilité dans ce club-là. Aujourd'hui, Philippe Taïeb a amené, depuis qu'il a pris la présidence, pas mal de stabilité avec son histoire avec Yannick Bru. Il est en train de faire perdurer le projet à mes côtés. Donc, ces projets, c'est des projets de construction. Ça se bâtit sur le long terme. Le haut niveau, vous connaissez le rapport aux objectifs dans la durée, il faut performer de suite, mais ça ne passera que par là, par une stabilité, une construction, une pérennisation de résultats. Et si l'aviron se maintient l'année prochaine, il y aura d'autres problématiques qu'il faudra tenir compte. Il faudra. C'est des projets qui sont sans cesse en mouvement et il faut construire. Et l'aviron est en train de montrer, grâce à ce campus, grâce à son agrandissement de stade, qu'ils veulent durer dans le temps en top 14.
Paul, c'est vrai peut-être qu'au début de saison, les équipes, les grosses écuries du top 14 arrivaient à Jean Daugé les mains dans les poches. Maintenant, est-ce que tu sens l'inquiétude dans le regard des joueurs qui débarquent en terre bayonnaise lorsqu'elles viennent disputer les matchs?
Ouais, alors peut-être pas de l'inquiétude pour les grosses cylindrées, mais c'est vrai que beaucoup de respect de la part du Stade Toulousain qui était venu quand même avec une équipe bis jouer sur les terres de Jean Daugé. Mais c'est vrai que Bayonne a plus ferraillé avec des équipes qui étaient censées se battre pour le maintien avec Bayonne en début de saison. On pense notamment au match face à Perpignan qui avait été très serré. Mais Greg, quand on t'écoute parler, tu parles encore aujourd'hui de maintien alors que Bayonne est intraitable à domicile.
C'est le Giroud du rugby, quoi.
Est-ce que franchement, on te pose la question souvent en conférence de presse, est-ce que le maintien n'est quasiment pas acquis aujourd'hui et est-ce que Bayonne n'est pas en train ou ne devrait pas regarder un petit peu plus haut dans la hiérarchie?
Non, chaque chose en son temps, il faut être raisonnable. Le 13e n'est qu'à 10 points derrière nous, on a un match direct dans 15 jours. L'avantage qu'on a, c'est qu'il y a pas mal d'équipes derrière nous, donc tout le monde ne pourra pas nous dépasser. Ça, c'est une certitude. Mais je le répète, notre marge de manœuvre, elle n'est pas très importante. Voilà.
Elle n'est pas énorme.
Si on prend les points encaissés, les points marqués, on est négatif, on est négatif. Aujourd'hui, il va y avoir une autre forme de pression sur l'équipe de l'Aviron, la validation d'un premier objectif. Sur les quatre prochaines rencontres, il y a trois rencontres à domicile. Et vous savez comme moi que quand on se rapproche d'un objectif, c'est là où il peut y avoir.
Mais faut pas trembler.
Une forme de pression supplémentaire sur nos épaules. Et donc, maîtrisons ce que l'on sait faire. On a des choses à travailler encore. Et renforçons ce qui marche très fort.
Messieurs, on va faire un tour de table. Est-ce que l'Aviron doit viser plus haut que ce maintien? Est-ce que vous les pensez capables de finir justement dans le top 6 et d'aller se mélanger au Cador? On va commencer par toi, Denis. Est-ce que tu y crois ou non?
C'est bien qu'il soit raisonnable et raisonné, parce que ce championnat, on le voit, c'est tellement dur, tellement difficile, et puis ça peut aller vite. En même temps, quand on voit les prestations de Bayonne, on ne peut pas être inquiet. Alors nous, avec un regard extérieur, évidemment, quand tu es à l'intérieur, tu essayes d'être raisonné comme il l'est, mais franchement, je ne vois pas qui peut les arrêter. Et je vois même aujourd'hui, je vois que le regard des autres équipes a changé par rapport à Bayonne.
Donc tu les vois dans le top 6?
Moi, je les vois dans le top 6.
D'accord, tu les vois dans le top 6.
Oui, parce que je ne vois pas chuter à domicile.
Tu sais qu'on fait des paris et que, au bout du compte...
Alors, je vais te dire pourquoi, parce que je ne les vois pas chuter.
Qui va payer le repas à la fin de la saison?
Je ne les vois pas chuter à domicile.
Tu as déjà payé la saison dernière.
Il y a beaucoup d'équipes qui ont chuté à domicile, donc ça veut dire qu'ils vont engranger tous les points à domicile. Ils sont déjà allés faire des résultats à l'extérieur. Il leur faudra un ou deux résultats extérieurs.
Ils restent à la maison, Brive, le Stade Français, Castres, Pau, Montpellier.
Mais toutes les équipes sont dures. Mais je les vois. Je pense qu'ils gagneront tout.
D'accord. Donc je les vois pour toi, top 6. Manu.
Je sais pas. Je sais pas.
Est-ce que c'est. Tu ne vois pas dans ta boule de cristal.
Essaye d'avoir un avis quand même.
Non.
Ah, même
non.
Pas.
Non. Je ne les vois pas dans le top 6. C'est trop tôt. C'est trop tôt, et puis ils n'en ont pas besoin qu'on leur annonce ce soir qu'ils seront dans le top 6, donc je dis non.
Bon, ça n'arrange pas le manager si on dit qu'ils vont être dans le top 6.
Oui, forcément.
Pour les joueurs, ça Non, par contre, est-ce que. Alors.
Mais vas-y, dis-le,
c'est pas une histoire de dynamique. Non, mais je sais pas, moi, si c'est pas un peu trop tôt par rapport à la deuxième étage de la fusée la saison prochaine. Ça veut dire que si vous n'êtes pas. Peut-être que se qualifier pour une Champions Cup, ce sera quand même assez difficile de le vivre l'année prochaine. C'est-à-dire que là, Grégory, souvent, la Challenge Cup permet de l'émulation dans le groupe et de faire tourner un peu, alors que la Champions Cup est
d'ailleurs,
très
la seule défaite énergivore à la maison cette saison, c'est en Challenge Cup face au Benetton très vite, je crois.
Et donc ce qui veut dire que ce serait peut-être pas un cadeau tout de suite. Alors si, évidemment, les joueurs, ils vont vouloir la jouer la phase finale certainement et être en Champions Cup, mais est-ce que ce serait un cadeau, Grégory, l'année prochaine, très vite de passer à ce niveau-là?
C'est pas la question,
ce niveau-là.
Il répond pas à la question.
J'essaie de réfléchir un peu plus
à la
Rochelle, que vous.
Toi, évidemment, on n'avait pas les ballons. T'as plus en touche.
La logique voudrait que non, pour moi. Écoutez.
D'accord. Voilà, enfin, une réponse. On va finir par Paul, qui lui, évidemment, rêve d'aller à Sale la saison prochaine, au mois de décembre, au mois de janvier, se faire caresser le cou par le gentil froid du nord de l'Angleterre, mais une Coupe d'Europe et puis une phase finale de championnat. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu vois depuis le début de la saison?
Le calendrier, ce que j'allais dire, est quand même pas mal, hein, avec Bayonne qui a joué beaucoup, beaucoup de gros à domicile. Donc, je vois bien un top 8 en fin de saison, peut-être pas un top 6. Mais Greg, juste une petite question. Christophe évoquait le calendrier. Vous allez jouer la section paloise et votre président a décidé d'aller délocaliser en Espagne dans l'enceinte d'Anoeta. Raison financière oblige. Est-ce que Bayonne ne se tire pas une petite balle dans le pied quand même en allant jouer à l'extérieur alors qu'à Jean Dauger, vous êtes aujourd'hui
à l'extérieur sans Sébastien, ça fait toujours plaisir.
Il y aura 25 000 Bayonnais. Tu crois que ça va leur poser un problème?
On pose la question à Grégory.
Non, franchement, je vois cet événement comme encore une vision et une motivation supplémentaire pour mon groupe. Franchement, il y aura 35 000, personnes sur ce style de rencontre. Ça va être fabuleux dans une atmosphère terrible. Et Tous les joueurs sont déjà très heureux d'un tel événement.
Tu sais quoi, en plus là où t'es malin, tu as préparé les demi-finales. C'est là où t'es bon.
Il y a des barrages, Denis, avant les demi-finales. Ou alors il faut qu'il soit dans les deux premiers.
Mais non, mais il a déjà l'ambition d'y aller.
C'est bon. Denis nous annonce que l'aviron sera dans les deux premiers, les enfants.
Et pourquoi pas champion de France?
Mais non, parce que les barrages, s'ils gagnent, ils peuvent être dans les barrages et passer les barrages.
Après, je parlais Champions Cup. Maintenant, c'est plus large. Septième, champion. Vous pouvez jouer Champions Cup.
Dans le championnat, dans le top 14, le sixième peut être champion de France. Castres l'a prouvé plusieurs fois. Bon, on va peut-être pas mettre la charrue avant les bœufs.
Donc, on n'est même plus à nos états.
Le manager, là, du
on est
complètement taré. Je vais vous dire, moi je vois les matchs, pas comme toi, Christophe. Je peux te dire.
Tu avais beaucoup vu ce week-end. Il était dans le jacuzzi pendant que moi je regardais tous les matchs.
J'aimerais pas prendre Bayonne en passe finale. Je te le dis.
Bon, voilà. Merci Grégory en tout cas d'être venu avec nous, c'était un très bon moment et on te souhaite.
Il n'a pas dit Grégory s'ils seront dans les 6.
Et oui, Greg.
Il n'a pas donné sa réponse.
Tu as le droit de parler.
Non, mais on prendra ce qu'il y aura à prendre. De toute façon, nous, on va essayer de performer sur chaque rencontre. Donc après, on fera les totos à la fin. Hein. Mais pour revenir à vos propos, aujourd'hui, on est dans un projet de construction. Quand on voit les exigences de ce top 14, la difficulté de nos clubs de top 14 à exister dans la grande Coupe d'Europe, c'est... Tout ça, ça se construit, voilà, parce que on ne fait pas le même championnat avec les Sud-Africains, avec les Anglo-Saxons. Il faut vraiment prendre en compte la réalité de ce top 14 qui est très énergivore. Je me rappelle de la première année où j'arrive à La Rochelle, on fait demi-finale à Marseille et l'année d'après, il y a eu le départ de Patrice, donc... Tout ça, c'est bien. C'est,
la réalité, Grégory, c'est que maintenant, on veut aller à Bayonne, Ituria, Bordeaux, et c'est pas fini. Ça veut dire que les joueurs sont intéressés par le projet.
Bien sûr, mais c'est l'étape 2 de notre construction. Voilà, aujourd'hui, on est en train de... On a fait à 90% notre recrutement. Vous imaginez, pour un promu, c'est avoir quasiment bouclé nos renouvellements de contrat et notre recrutement au mois de janvier, c'est presque inespéré. Donc c'est un club qui veut construire, qui veut durer dans le temps et... Consolidons notre socle, notre fondation et il y aura des beaux jours à l'aviron parce que vous connaissez tous comme moi le Pays Basque, cet environnement bayonnais, il est fabuleux.
Merci beaucoup Grégory Patat d'avoir été notre invité entre les poteaux.
Bonne continuation.
Et bonne suite de saison, je crois que tu vas retrouver Patrice Collazo en plus dans quelques jours face à Brive, ça va être un match, ça va être du costaud ça on imagine, à Jean Daugé. Merci Grégory, merci aux poteaux et évidemment on se retrouve.
Salut les gars, bonne soirée.
La semaine prochaine, on va parler d'autre chose.
Merci à vous.
Merci Grégory. À très bientôt.